Esprit de Justice qui ce soir va s'intéresser à la sortie de prison. Le nombre de détenus ne cesse d'augmenter dans notre pays, d'augmenter de manière préoccupante, et c'est dû à l'augmentation des entrées, mais il faut aussi s'interroger sur la durée moyenne des détentions. Mais peut-être faut-il prendre la question à l'envers en se concentrant sur la sortie, c'est ce que je propose de faire ce soir. La sortie peut prendre des formes très différentes entre la sortie dite « sèche », c'est-à-dire au dernier jour de la peine, de manière non préparée et dont on sait qu'elle est aussi la plus récidivante. Mais elle peut aussi être aménagée. La loi prévoit que les personnes détenues doivent bénéficier, je cite, « chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte. » En fait, dans la pratique, ces aménagements de peine restent cependant peu prononcés, en gros un quart des sorties. Un taux qui s'explique notamment par la faiblesse des moyens qui leur sont consacrés, aussi bien à l'administration qu'aux associations, par la pression qui pèse sur les magistrats en cas d'incident, mais également peut-être aussi par une mauvaise appréciation de l'enjeu, la sortie aménagée étant encore trop souvent perçue comme une faveur. Alors, comment est vécue la sortie de détention par les détenus, et notamment par les longues peines? Comment est-elle organisée par les services pénitentiaires? Sur quels critères est-elle autorisée par les juges d'application des peines? Voilà quelques-unes des questions qu'Esprit de Justice va traiter ce soir en réunissant plusieurs spécialistes de cette question. Prune Missoff, qui est responsable de l'analyse et du plaidoyer à l'Observatoire international des prisons. Et j'en profite pour dire à nos auditeurs, leur conseiller cette excellente revue « Dedans, dehors », qui est la revue de l'OIP, et qui travaille intelligemment sur la prison depuis des années. On en est au numéro 121. Avec Prune Missoff, Ludovic Fossé, magistrat, ancien juge d'application des peines, président de chambre à la Cour d'appel de Paris, vice-président de l'Association nationale des juges d'application des peines, l'ANJAP. Et puis, enfin, Khaled Miloudi, qui a purgé des longues peines de prison et qui s'en est sorti. Il s'en est sorti par l'écriture. Ça ne peut pas laisser indifférent dans cette chaîne de France Culture. Et il a rédigé un livre, « Les couleurs de l'ombre », aux éditions Équateur en 2022.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Bonsoir à tous les trois, merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors ma première question, ce sera pour vous, Prune Missoff. On en est où des aménagements de sortie? Est-ce que ça vous semble être le principal problème aujourd'hui dans ce stock, comme on dit, de manière terrible?
Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui, à peu près un quart des personnes sortent de prison sous aménagement de peine. Ce qui veut dire, c'est très logique mathématiquement, mais ça vaut le coup de changer le curseur, ça veut dire que 3 personnes sur 4 sortent en sortie sèche, donc sans accompagnement. Aujourd'hui, quand on enferme une personne derrière les barreaux, finalement, on se rend compte que la sortie fait complètement partie de l'impensé. Oui, oui. Ce qui est important aussi, vous parlez de flux, c'est aussi derrière de comprendre la réalité. Qu'est-ce qui se passe derrière les barreaux? Tout ce temps que la personne va passer en prison, elle va le passer, pour 7 personnes détenues sur 10, elle va le passer 22 heures sur 24, voire 23 heures sur 24, dans une cellule de 9 mètres carrés, avec une autre personne, voire 2 autres personnes, voire encore davantage, dans des conditions qui sont souvent indignes et dans le plus grand désœuvrement. Il faut quand même rappeler là aussi la France a été condamnée début 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme pour des traitements inhumains et dégradants. Juillet 2023, on a re-été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. Et aujourd'hui, le comité qui regarde si la France met à exécution cet arrêt dit on s'inquiète de l'aggravation de la situation.
C'est pas les avertissements qui manquent d'ailleurs. Hein, Prune Missoff, on se souvient les prisons, la honte de la République, il y a en 2000, c'est pas si lointain par un rapport sénatorial. Mais ça ne change pas grand-chose selon vous dans les conditions matérielles de détention?
Alors j'ai envie de dire, c'est bien au-delà de selon nous. Comme vous le dites, les alertes viennent de partout et ça n'empêche pas, malheureusement, qu'on batte record sur record. Aujourd'hui, on est à 77 000 personnes détenues, c'est du jamais vu. Au 1er février, il y a eu un nouveau record, c'est 3 000 personnes, plus de 3 000 personnes détenues qui dorment sur un matelas au sol. Donc en fait, aujourd'hui, pour revenir à votre question initiale, c'est-à-dire que se poser la question de la sortie de prison sans regarder à quoi on condamne les personnes détenues, voire même on ne les condamne pas, parce qu'il faut aussi rappeler qu'un quart sont là en détention provisoire, oui, c'est-à-dire en attente de jugement. Évidemment, quand toute la peine finalement va être une peine qui fait souffrir, en fait, littéralement, dans les corps et les esprits.
Et qui fait souffrir par les conditions, et beaucoup plus que par la privation de liberté en soi.
Par les conditions, tout à fait, et aussi par le désœuvrement que j'ai commencé à évoquer.
Bien sûr, alors on reparlera ça, Ludovic Fossé, sur cette montée de l'incarcération en France. Quel est votre point de vue ?
Bon, on a un peu le sentiment, effectivement, d'une fuite en avant. C'est-à-dire que ce recours à la prison n'est pas pensé, n'est pas réfléchi, l'idée générale est que plus on incarcère longtemps, moins les gens vont récidiver. Alors que véritablement, compte tenu des conditions de détention actuellement, c'est exactement l'inverse.
C'est ça, c'est pas démontré.
Non, c'est absolument pas démontré et qu'il faut réfléchir effectivement à avoir un temps d'incarcération qui soit le plus utile possible. Donc nécessairement moins de monde en prison, j'ai tendance à dire il faut moins incarcérer pour mieux incarcérer. Et faire en sorte que ces gens qui sont en détention, en fait, passent pas 20 heures sur 24 en cellule à regarder la télévision, à deux ou à trois par cellule, et attendre que le temps passe. Il faut que ces gens-là soient en activité en détention, qu'on leur propose des choses, qu'on leur permette des temps de réflexion, des temps de formation. Et que donc, au moment où ils sortent, finalement, ils sortent dans de meilleures conditions qu'ils ne sont rentrés. C'est ça, la condition première de la non-récidive. C'est que les personnes se sont améliorées en détention. Or aujourd'hui, évidemment, les conditions de détention actuelles, notamment dans les maisons d'arrêt, puisque c'est là où, évidemment, est le principal problème de surpopulation pénale, font que les gens en fait sortent dans de bien plus mauvaises conditions qu'ils ne sont rentrés.
S'améliorer en prison, Khaled Mioloudi, s'améliorer en prison, c'est quelque chose que vous avez connu, vous, pas tout de suite.
Oui. Alors, je rejoins un petit peu ce qui vient d'être dit. Une fois que la sanction est tombée. Quand on a le sentiment que c'est la juste peine, parce que la plupart des longues peines, notamment, je peux parler des longues peines, prennent cette peine comme une vengeance de la société. Mmh. Et ils ont du mal à se reconstruire, parce que pour eux, la société vengeresse les a éliminés, parfois définitivement, puisqu'une peine de 30 ans avec 20 ans de sûreté, c'est une perpétuité déguisée. Et après, je parlerai aussi du sens de la peine, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, le sens de la peine. Moi, je l'ai cherché pendant 10 ans, le sens de ma peine. J'étais DPS, donc j'ai fait à peu près...
DPS, ça veut dire détenu particulièrement signalé. Oui.
Et j'étais transféré à peu près tous les ans. Je changeais de prison tous les ans, j'ai fait du tourisme carcéral, j'ai fait plus de 28 prisons dans toutes les centrales de France, toutes les centrales de haute sécurité. Et un jour, je faisais du sport 6 heures par jour, j'étais un enragé, j'étais dans le ressentiment, la colère. Et un jour, il s'est passé quelque chose. Entre la corde et la plume, j'ai choisi la plume. Mais parce que voilà, j'ai fait cette démarche-là... J'ai donné un sens à ma peine. Voilà.
Et c'est vous qui l'avez trouvé, ce sens?
C'est moi qui l'ai trouvé parce que j'ai exécuté ma peine dans des déserts affectifs, sociaux et culturels. Affectifs puisqu'on a été coupé de nos liens familiaux. J'étais incarcéré à Lannemezan alors que mes enfants sont sur la Jean Parisienne. Donc j'ai fait toutes les centrales où on m'a éloigné. Et j'ai cherché longtemps le sens de ma peine. Et voilà. Grâce à l'écriture, j'ai pu trouver l'issue de secours de ce labyrinthe.
Alors on va revenir sur l'écriture, parce que c'est un parcours qui est exemplaire en ce que vous avez trouvé en vous-même les ressources pour s'en sortir. Le sens de la peine, Ludovic Fossé, c'est un sens qui est imaginé par l'administration, qui est soufflé par le juge. Comment est-ce que vous le concevez, vous, avec l'expérience qui est la vôtre?
Ouais, c'est un concept qui est toujours très très compliqué. Enfin, on a globalement deux grandes directions. D'un côté, la rétribution, hein, donc l'idée que c'est la conséquence de la faute commise et de l'idée d'une réparation finalement par la privation de liberté, par la souffrance. Et puis il y a l'autre pendant qui est de dire que cette peine doit être une peine de reconstruction et de réinsertion et de préparation à un deuxième temps. Et tous les juges sont en permanence entre ces deux conceptions de la peine au moment où ils doivent se prononcer, de savoir où on met le curseur entre cet équilibre à trouver vis-à-vis des victimes, de l'attente de la société, etc.
Pour la gravité de l'infraction.
La gravité de l'infraction, évidemment. Bah alors, après, les problématiques sont quand même assez différentes. Là, on vient effectivement parler de la question des longues peines.
Oui.
Donc, la question du sens de la prison, elle est là avec la gravité des faits. On imagine mal prononcer autre chose qu'une peine de prison pour un certain nombre d'infractions que sont des crimes. Après, toute la question, c'est quel parcours de peine on met en place.
C'est ça.
Et comment on construit. Et on voit bien que le législateur, depuis une vingtaine d'années, en fait, a mis beaucoup de freins à enclencher finalement une dynamique de sortie et à permettre aux condamnés de trouver un sens à leur peine.
Et pourquoi ça, quand vous expliquez ça?
Parce que le législateur a introduit des dispositifs dans la loi qui font qu'on peut beaucoup plus difficilement recourir aujourd'hui à la libération conditionnelle qu'on pouvait le faire il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de condamnés longue peine qui sortent de détention en libération conditionnelle, alors que c'est une mesure qui a quand même fait ses preuves. Hein. 1885, voilà, elle est toujours inscrite dans notre droit, elle est présente.
Et là-dessus, les criminologues sont unanimes. C'est les moins récidivantes.
Oui, oui. Et ça permet aux gens de se projeter et d'avoir un moment dans la peine où il y a une dynamique qui se met en place et de l'accompagner. Alors que là, aujourd'hui, on est dans des temps d'attente qui sont de plus en plus longs, avec des sorties de longue peine de plus en plus tardives. Et on sait que plus les durées de détention s'allongent, plus c'est compliqué de retrouver une place dans la société ensuite. Et donc, voilà, un système très, très, très contre-productif.
Primisov.
Oui, en fait, je voudrais rebondir sur l'utilisation du... Tout à l'heure, tu parlais du curseur, le curseur entre la punition et la réinsertion. En fait, effectivement, quand on arrive à la peine de prison, avec ce qu'on vient de décrire, on se rend compte que le curseur, il n'est pas du tout au milieu, sur un point d'équilibre. En fait, il est très clairement sur le volet de la
répression,
de la punition.
Oui.
Et c'est ce que disait Khaled Miloudi, c'est-à-dire, il parlait de vengeance ressentie, mais l'impression qu'on a quand on observe aujourd'hui les conditions de détention dans les prisons françaises, c'est que finalement, quand avec la justice, on a voulu passer d'un système de vengeance individuelle à quelque chose de différent, là, on se retrouve presque dans un système qui fait penser à de la vengeance collective.
Mais ce que vient de dire Ludovic Fossé sur le moins incarcéré pour mieux incarcérer, vous accepteriez ce mantra, vous, Primisov?
Alors, moins incarcéré, c'est certain.
Oui.
Mieux incarcéré, si ça veut dire essayer de donner du sens à cette peine de prison... Oui, évidemment, je pense que tout le monde autour de la table souhaite que cette peine ait enfin du sens.
Oui, mais ce que vient de nous dire Khaled Miloudi, c'est précisément que le sens, il faut que ça se construise, c'est quelque chose d'individuel, c'est pas quelque chose qui est nécessairement donné ou suggéré, Primisov.
Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu, moi. J'ai entendu que Khaled Miloudi, lui, s'était saisi.
Oui.
Et lui avait fait une démarche proactive, mais la réalité, c'est que il devrait y avoir des outils proposés aux personnes détenues pour s'emparer de leur détention. Et aujourd'hui, on est face à une injonction paradoxale qui est dramatique, où on dit aux personnes détenues au quotidien, il faut vous saisir de votre détention, il faut vous responsabiliser. Mais en fait, il n'y a aucun moyen, je pourrais vous donner quelques exemples après, mais il n'y a aucun moyen qui est donné aux personnes détenues pour faire ça.
Oui, je suis resté presque 8 ans en maison d'arrêt. Par rapport à cette étiquette de DPS, j'ai pas pu accéder à un centre scolaire. J'avais vraiment envie de reprendre un cursus scolaire et j'ai pas pu. Donc voilà, là aussi,
peut imaginer que la scolarisation, le reprendre un cursus scolaire, c'est le béaba.
Bien sûr, puis c'était une démarche de mon côté, voilà,
c'est quelque chose
que je voulais faire. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser le carpe diem, utiliser ce moment pour essayer d'ouvrir mon esprit, de le parcourir et peut-être de l'approfondir. Et en centrale, on avait des activités au mois de juillet, au mois d'août, on avait des intervenants comme ça, c'était ponctuel. Et puis tout le reste de l'année, on n'avait pas d'activité, on avait plus d'activités en maison d'arrêt. Qu'en centrale, qu'en longue peine, pour des longues peines, et ben voilà.
Mais dans les longues peines, on pense beaucoup à la sortie, c'est très loin.
Oui, mais justement, alors pour la sortie, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, pour la sortie, mais la sortie, il ne faut pas en parler au bout de la 20e année. Moi, on a commencé à me parler de la sortie et à me présenter une batterie de psychologues et de psychiatres pour savoir si dans ma tête, j'étais normal et j'étais apte à sortir. Mais
au bout de combien de temps?
Au bout de 19 ans. Et alors que je pense que dès le début de ma peine, on aurait pu me préparer et commencer à parler de la sortie. On m'a juste enfermé dans un dossier et on m'a parlé de la sortie au bout de 19 ans. Et pour certains, c'est trop tard.
Primisov, vous vouliez intervenir?
Non, je voulais juste ajouter, parce que vous aviez l'air étonné par rapport à l'accès à l'enseignement, mais les derniers chiffres, moi, que j'ai lus sur la question, c'était un enseignant pour à peu près 130 personnes détenues dans les prisons françaises. Donc, on est vraiment sur une description au plus proche de la réalité, et c'est pas du tout une exception par rapport à l'enseignement. C'est les mêmes choses sur l'accès au travail, à la formation professionnelle, des mois d'attente pour voir un psychologue, et il y a des conseillers d'insertion et de probation, ils sont à 120 personnes qui suivent en même temps.
C'est ça. Alors, Ludovic Vossé, j'ai l'impression que même ça décroît le nombre d'emplois, l'emploi en prison, et décroît malheureusement.
Là, j'ai pas les chiffres très précis là-dessus, mais comme le nombre de détenus augmente, par définition, la chance pour avoir un condamné d'avoir une formation professionnelle ou un emploi décroît nécessairement, enfin automatiquement, avec même si l'agence spécialisée essaye de progresser, on a quand même mis en place le contrat d'emploi pénitentiaire, etc., professionnel. Qui a amélioré un peu la situation pour les condamnés en termes de droits, mais évidemment l'accès à la formation, au travail, à l'enseignement, enfin la première vertu du détenu, c'est la patience. Il est en permanente sur liste d'attente. Et de manière assez catastrophique, pour donner un exemple très concret, il n'y a pas très longtemps, sur un établissement pénitentiaire de la région parisienne qui accueille essentiellement des auteurs de violences sexuelles, le condamné avait été content puisqu'il était passé de la 189 place sur liste d'attente à la 80e. Et il était à 3 mois de sa libération. Enfin, voilà, c'est des situations absolument dramatiques.
On ne peut pas faire grand-chose quand dans une prison surpeuplée.
Non, mais même dans des prisons non surpeublées, donc l'exemple qu'on donnait des maisons centrales, des centres de détention où il n'y a pas forcément d'intervenants parce que ces établissements pénitentiaires sont assez loin des centres urbains. Et donc c'est très compliqué d'y faire venir des intervenants extérieurs.
Et pour la culture, c'est pareil. On parlait du centre scolaire. La culture, voilà. Vous savez que c'est très important, l'art, la culture. Moi, j'ai eu la chance en 2014 de participer à un atelier de poésie. Tout est parti de là. De reprendre
c'est un atelier de poésie qui
un atelier avec Bruno Doucet, poète et éditeur, qui est venu et voilà, j'ai déclamé un poème. On a fait une battle de poésie ce jour-là avec des co-détenus qui me regardaient d'un air en disant ça y est, il est devenu fou, Khaled. et il s'est passé quelque chose. Il m'a publié mon premier poème, Intramuros. Et puis cette prof de littérature que j'ai rencontrée, Aude Siméron aussi, qui m'a tiré vers le haut, qui m'a découvert un talent pour l'écriture et la littérature. Donc voilà, j'ai pu accéder en 2014 alors que j'avais commencé ma peine déjà depuis une quinzaine d'années. Donc la culture, l'art, le travail, le sport aussi, liste d'attente pour parler, pour le sport c'est pareil. Vous avez 200 personnes et il y a 30 places pour le sport.
Mais Prune Missoff, est-ce que c'est pas complètement différent cette problématique de la sortie pour des courtes peines où on n'a pas le temps de mettre quelque chose en place et pour des longues peines. Est-ce que vous voyez une différence ?
Effectivement, je pense que la problématique est relativement différente, mais je dirais qu'elles ont le même niveau de gravité. Oui. C'est-à-dire que les courtes peines, alors ce qu'on disait avant tout, il y a la question, vous parlez de la question du temps, je pense qu'avant tout c'est la problématique du manque de moyens proposés aux personnes détenues, parce qu'après tout, on a beau dire que 6 mois c'est une courte peine, ça peut être en fait assez long et on voit sur des alternatives ou dans le cadre d'aménagement de peine, qu'en 6 mois, quand il y a un véritable accompagnement qui est proposé, il peut se passer sacrément des choses. Effectivement, là, on n'a pas de moyens et en plus, on est dans une situation de surpopulation carcérale où, en fait, c'est même plus, le point de travail principal de l'administration pénitentiaire qui est beaucoup trop occupée à gérer des flux, en fait.
Sentiment
Ludovic Fossé. Oui, c'est un peu différent. Après, la réponse sera un peu compliquée, parce qu'il faut pas parler de la délinquance, mais des délinquances, et donc les parcours sont différents. Mais effectivement, sur des gens qui sont incarcérés pour des durées de détention de moins d'un an, on est sur des gens qui ont des parcours de délinquance qui se font à la fois en détention et en milieu ouvert, dans des sursis probatoires.
Qui sont plus dans la problématique de dehors.
Qui multiplient les condamnations et les infractions, donc des passages devant le tribunal, et dont le parcours de délinquance est souvent chaotique. Mais derrière tout ça, il y a des parcours de vie très compliqués. Et effectivement, c'est les personnes qui ont besoin d'être accompagnées, d'être aidées, des éducateurs, des psychologues, de la formation. Ils sont très souvent en situation d'échec, échec familial, échec scolaire, échec professionnel. Et donc, il y a besoin, effectivement, de leur donner ce temps-là. Et c'est compliqué, parce que les détentions ne permettent pas ça, avec l'encombrement des établissements pénitentiaires.
San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963.
I've seen them come and go and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you. You cut me and you scarred me through and through. And I'll walk out a wiser, weaker man. Mr. Congressman, you can't understand. What good do you think you do? Do you think I'll be different when you're through? You bend my heart and mind and you warp my soul. Your stone walls turn my blood a little cold.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
May you rot and burn in hell.
Esprit de justice qui continue de s'interroger sur la sortie de prison, l'aménagement de cette sortie ou le non-aménagement en compagnie de Khaled Miloudi, ancien détenu, de Ludovic Fossé, juge d'application des peines et maintenant président de chambre à la Cour d'appel de Paris, et puis Prune Missoff, membre de l'OIP. Prune Missoff qui a choisi de nous faire entendre cette chanson de San Quentin par Johnny Cash. C'est toujours agréable d'entendre du Johnny Cash en fait, même s'il dit des choses pas tellement agréables, Prune Missoff.
Oui, bah effectivement, dans cette chanson, il décrit quand même assez fortement finalement cette dynamique de bannissement dans laquelle on est aujourd'hui quand on condamne quelqu'un ou quand on enferme simplement quelqu'un derrière les barreaux, et le désœuvrement et la violence, en fait, la violence ressentie par la personne détenue. Et cette impensée, on en parlait tout à l'heure, cette impensée de... À un moment donné, la personne détenue, elle va avoir vocation en fait à réintégrer la société.
Alors, Khaled Miloudi, vous avez vécu ce moment, c'est-à-dire cette longue attente, hein, une peine qui a duré très longtemps. Comment, quand la date se rapproche, il y a un mélange, j'imagine, d'attente, bien sûr, et une appréhension peut-être aussi, non?
Oui, surtout les derniers mois et les dernières semaines. Comme une pression, j'étais surpris aussi, puisque la liberté, je l'ai attendue, je l'ai rêvée, je l'ai espérée longtemps. Et en fin de compte, c'était chez moi, ma cellule, c'était mon chez-moi, quoi. Et donc j'allais quitter ce chez-moi, c'est 7 mètres carrés, avec deux cartons, pour partir vers un ailleurs que je ne connaissais pas. Donc voilà, beaucoup d'appréhension. Je me rappelle de la question que m'avait posée un surveillant avant de partir, avant de m'accompagner à la grande porte. Et il m'avait dit, qu'est-ce que vous avez envie de faire en sortant, Miloudi? Et spontanément, je lui ai dit, faire des rencontres. Donc voilà. La première chose que j'avais envie de faire, c'était faire des rencontres. Faire des rencontres. Et quand je suis sorti, donc, j'étais en semi-liberté, pendant un an, un aménagement de peine, et quand je suis sorti, mes pieds touchaient pas le sol. Le ciel m'a paru plus majestueux que jamais. J'ai allumé la camionnette puisque j'étais chauffeur livreur la première année. Il y avait un air de Goldman, Envole-moi. J'avais l'impression qu'elle avait écrit pour moi, cette chanson écrite pour moi. Et quand j'ai pris les transports, là, il y a eu un choc. Je me suis retrouvé alors que j'ai toujours été détenu seul. J'ai toujours été seul, j'ai jamais été doublé, donc c'est le seul avantage d'un DPS.
Et là, vous n'étiez plus habitué au monde.
Voilà. Et je me suis retrouvé, c'était pendant les grèves, janvier 2020, vous vous rappelez, c'était les grèves. Donc j'avais une trentaine de personnes qui étaient agglutinées autour de moi. Et là, j'étouffais, quoi. C'était violent pour moi. Et puis après, je cherchais le contact avec le regard, avec les yeux, je cherchais la rencontre avec les autres. Et tout le monde était sur son smartphone ou sur sa tablette. Et autant je pensais qu'on allait me regarder comme un extraterrestre. Et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais non, l'extraterrestre, c'est pas moi, c'est eux, quoi. Parce que moi, je cherchais à regarder les gens pour créer du lien. Et en fin de compte, personne ne se regardait dans les transports. Donc voilà, ça a été assez violent, d'autant que j'ai été réincarcéré. Je suis sorti le 5 janvier 2021. J'ai commencé à avoir ma première permission de sortie, puisque quand on est en semi, quand ça se passe bien, on peut passer le week-end, le vendredi, samedi, dimanche avec sa famille. Et le 23 mars, vous vous rappelez, on a été reconfinés à cause du Covid. Et nous, les détenus, on a été réincarcérés.
Automatiquement.
Automatiquement, il y a une note de service du ministère qui nous a réincarcérés. Et j'étais pratiquement l'un des seuls détenus au centre de semi-liberté, puisque toutes les petites peines avaient
alors là, c'était dur.
Oui, il n'y avait que mon nom sur une porte, mon étiquette. Et alors que j'avais commis aucune infraction, que tout se passait bien de mon côté, et j'étais réincarcéré à cause de cette aliène microscopique.
Ludovic Fossé, c'est le rôle du JAP de gérer, excusez-moi, d'administrer, d'accompagner, de décider, d'autoriser les sorties.
Ouais, de permettre les évolutions, effectivement. Ouais. Et moi, j'ai le souvenir de, justement, sur les longues peines, cette première permission de sortir après plusieurs années de détention, c'est toujours, il y a un enjeu évidemment très important, de manière globale, mais pour le détenu, c'est vraiment une confrontation au monde réel. Parce qu'en fait, la prison, on l'imagine bien, isole complètement. Enfin, il y a beau y avoir aujourd'hui, comme des intervenants extérieurs, la télévision, etc. C'est pour le détenu, c'est un monde qui n'est pas le sien, qui est l'extérieur. Et donc la permission de sortir, c'est la confrontation finalement à un monde qui a changé, qui a évolué. C'est aussi la confrontation éventuellement au fait que la compagne n'est plus là, que les amis sont partis, et que la reconstruction va être longue et difficile. Et puis il y a ce...
Et que les autres vous attendent pas, comme disait Ralph.
Personne ne nous attend, et il y a la prison crée aussi un changement dans la perception des sens. Et donc, quand les gens sortent, après des longues années de détention, ils sont très perturbés.
C'est-à-dire la perception des sens.
La perception de l'espace, des bruits, ouais. Le regard. Le regard est coupé en prison, parce qu'il y a des murs partout. Donc, la vue évolue également. Enfin, voilà. Et ça, pour les détenus, au moment où ils sortent, après, donc, c'est toujours un moment très, très compliqué.
La foule aussi.
Oui, vous confirmez.
Le monde, les supermarchés, les magasins, tout alors, ça. Les lumières aussi.
Il y a un détenu qui me disait que, en fait, dans la prison, tout est plat. On marche toujours sur du plat. Et que lui, la première sortie, c'était à Arles. Il s'est rendu compte qu'il y avait des montées et que c'était... Et en fait, il n'était plus habitué à ça, Ralph Miloudi.
Oui, oui, c'est vrai. Les cours de promenade, c'est plat. C'est bétonné, c'est plat. Et moi, ce qui m'a... Alors, moi, c'est pas le monter ou descendre. C'est surtout le fait de pouvoir marcher. Quand je suis sorti au bord du canal de l'Ourcq, j'habitais dans le 19e, de pouvoir marcher sans mur ni grille pour m'arrêter. Mmh. Ah oui. Et j'adorais aller courir le matin, et encore aujourd'hui, de pouvoir courir comme ça, sans un mur, sans une grille, des bras qui m'arrêtent, et j'ai encore cette sensation de liberté à ce moment-là.
Alors, Prudmissov, on disait, dans la prison, il y a la télé, il y a de plus en plus de choses, mais il y a quand même quelque chose qu'il n'y a pas, et qui est très importante pour préparer sa sortie, c'est Internet.
Effectivement, et c'est quelque chose aujourd'hui qui semble un peu moyenâgeux, parce qu'en réalité, au quotidien, à l'extérieur, je ne sais pas lequel d'entre nous pourrait imaginer passer ne serait-ce qu'une seule journée sans accéder à Internet. Pour tout, en réalité, Ralph nous dit parler de la culture, mais pour l'accès à la culture, pour suivre des cours en ligne...
Et ne parlons pas des démarches administratives.
Évidemment, pour les... Alors, bon, effectivement, je ne vais peut-être pas faire l'ensemble de la liste, parce qu'elle serait extrêmement longue, mais il y a toute la partie de préparation à la sortie, où là encore, la personne va sortir. Comment est-ce qu'elle cherche un logement ? Comment est-ce qu'elle cherche un emploi si elle n'a pas accès à Internet ? Enfin, c'est une vraie question. Quand bien on sûr, est dans des établissements sûr. Où l'accompagnement n'existe quasiment pas, en fait, si la personne n'a pas de soutien extérieur, elle ne peut pas faire cette démarche-là. Et ces démarches, potentiellement, elles vont aussi... alors, je vais laisser le juge d'application des peines reprendre là-dessus, mais ces démarches, elles vont aussi permettre d'accéder à des aménagements de peine pour certains, oui. Ou à des permissions...
Donc, c'est le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens d'obtenir cet aménagement qu'on espère autant.
Exactement. Et je pense que c'est très important aussi de le dire, parce que ça peut sembler anecdotique, mais en réalité, on voit avec le témoignage de Ralph Miloudi combien c'est important. Il y a aussi... la question du lien avec la société, simplement. La société, elle évolue à une vitesse énorme.
Oui, surtout ces dernières
années. Quelqu'un qui sort après 10 ans,
oui.
Mais il ne sait même pas utiliser les nouvelles technologies que nous, on utilise c'est aujourd'hui.
Ça a été votre cas,
oui,
Ralph Miloudi?
Oui, je me suis considéré longtemps comme un électro-analphabète. C'est le terme pour les gens qui sont... Puisque, comme vous le savez, là, je parle de ce qui est administratif. Toutes les déclarations qu'on fait maintenant, c'est directement.
Et vous saviez pas les faire?
Non, heureusement, j'avais ma sœur, ma fille qui m'a beaucoup aidé, mais j'étais incapable. Encore aujourd'hui, je sais envoyer des mails et tout, mais c'est vrai, j'ai encore beaucoup de mal avec un ordinateur. Bon, j'écris toujours à la main, mais ça, c'est un choix, parce que j'ai vraiment besoin de ce contact avec le papier, sans avoir une interface comme ça entre mon esprit. Mais oui, on est complètement déboussolé. Oui.
Ludovic Fossé.
Oui, non, mais je confirme que l'accès au numérique en détention, c'est un enjeu considérable en termes de réinsertion, mais d'ailleurs aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Mmh. Donc, quand une personne rentre en détention, elle n'a plus accès à son téléphone portable.
Et une sorte de crise de banque.
Bah surtout, elle n'a plus accès à ses différents applicatifs qu'elle avait à l'extérieur. Elle ne peut pas mettre un terme éventuellement à des contrats d'abonnement, que ce soit en téléphonie, etc. Et donc, en fait, elle cumule des dettes par le simple fait que ces contrats qu'elle a pu souscrire à l'extérieur...
De ne plus avoir accès à son portable.
Exactement, parce qu'il n'y a pas l'accès au portable. Et au moment de la libération, effectivement, c'est un enjeu majeur, puisqu'aujourd'hui, pour trouver un emploi, il faut être capable de répondre à une demande en ligne ou à un appel téléphonique, et ce n'est pas possible. Mais même aujourd'hui, dans les centres de semi-liberté, lorsqu'un détenu rentre en semi-liberté le soir, il met son téléphone dans un casier. On ne voit pas où est l'enjeu de sécurité.
Mais où est-ce que ça bloque, Ludovic Fossé?
J'ai beaucoup de mal à... Je pense qu'il y a une part de fantasme, c'est-à-dire l'idée que le détenu qui va avoir accès à ces outils-là en détention, ça va être pour commettre des infractions. On sait qu'aujourd'hui, les téléphones portables interdits circulent partout et ceux qui veulent commettre des infractions le font sans difficulté. On a l'exemple quand même des prisons de Marseille aujourd'hui, où le grand banditisme peut commanditer des assassinats depuis la détention. Donc je crois pas que le commun des mortels, la plupart des détenus qui sont là pour des peines moyennes, il n'y a pas cet enjeu-là. L'enjeu, c'est le maintien des liens familiaux, c'est l'accès à l'information, c'est la possibilité de construire un projet.
Et une manière de rester en société.
En fait. Et d'être responsable.
C'est ça.
Allez, oui, pour ajouter, pour rebondir sur ce que disait M. le juge, pendant le Covid, quand on a été réincarcé, j'étais au centre de semi-liberté de la santé. Comme vous dites, il n'y avait pas d'enjeu de sécurité, hein, puisqu'on sortait la journée et on rentrait le soir après le boulot, donc on ne peut pas parler de sécurité. On nous a laissé nos portables pendant le Covid.
Ah oui ?
J'avais mon téléphone à la cellule et là on ne le mettait pas dans le casier, on m'a laissé mon portable pendant les 3 mois, jusqu'au déconfinement qui était le 13 mai, je crois. J'avais mon portable, donc je rentrais avec mon portable dans ma cellule. Et il n'y a eu aucun problème, il n'y a pas eu de problème de sécurité. Je pense que c'est aussi les mentalités qu'il faut faire évoluer.
Oui, c'est fait partie d'apprendre à vivre avec le numérique, Prusmina.
Oui, c'est tout à fait ce que Khaled Miloudi dit, c'est qu'il faut faire évoluer les mentalités et il faut changer le prisme par lequel on regarde les choses. Et effectivement, l'argument vraiment qu'on entend aujourd'hui dès qu'on parle d'introduire Internet en prison, c'est la question de la sécurité. Et c'est vraiment, en fait, pour... À chaque fois qu'on demande à ce que des droits fondamentaux soient respectés, parce que c'est quand même de ça dont il est question, c'est de pouvoir exercer ces droits les plus fondamentaux, on nous oppose la sécurité. Et en fait, tout à l'heure on parlait de la question du sens de la peine. La peine ne peut pas avoir de sens tant que les droits fondamentaux ils sont considérés comme une variable d'ajustement. En fait, tant qu'on ne pense pas que l'accompagnement qui doit exister pendant la peine, en fait, il est conditionné au respect des droits fondamentaux.
C'est ça. Prudmissov, c'est une condition, mais le droit, on avait une discussion avec Bertrand Cazemarec il y a quelques semaines là-dessus, le droit est peut-être pas suffisant pour conférer un sens à la peine. C'est une condition indispensable.
Le courage politique n'est pas suffisant.
Très bien. Mais alors, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement, Ludovic Fossé, parce qu'il y a plusieurs modalités. Alors, on a parlé de la sortie préparée, sortie aménagée. Il y a aussi des placements extérieurs. Ça existe aussi,
oui,
ça.
Malheureusement, relativement peu nombreux.
Et c'est quand même une bonne formule.
Ça dépend des publics. Moi, j'ai tendance à dire, à chaque fois que je suis entendu sur ces questions-là, qu'en fait, le juge d'application des peines, il a besoin d'avoir une caisse à outils avec un maximum d'outils, puisque les situations sont très diverses. Et effectivement, la mesure de placement extérieur, elle est très adaptée pour des gens qui sont en rupture sociale, familiale, très isolés, pour avoir une prise en charge complète dans des structures d'hébergement, à la fois prise en charge insertion professionnelle et puis accompagnement social. Pour d'autres, qui vont éventuellement des proches, familles soutenants, une exécution de fin de peine avec un bracelet électronique sera très très bien adaptée. D'autres encore, la semi-liberté.
Et c'est finalement le juge qui doit trouver la formule la mieux adaptée.
Avec l'aide des services de probation, avec le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui est quand même très largement à la manœuvre, et en associant évidemment le condamné, puisque c'est quand même lui qui est aussi, c'est le mieux, quelles sont souvent ses faiblesses, les choses sur lesquelles il va pouvoir avancer, ce qui est le plus adapté, puisque chaque formule finalement a ses avantages et ses inconvénients. Il faut trouver celle qui est vraiment adaptée à ce détenu-là, pour maximiser les chances de réinsertion et limiter autant que possible les risques de récidive.
Mais Khaled Miloudi, c'est pas facile de se regarder en face. En détention, c'est peut-être plus facile parce qu'on est face à soi-même pendant des longues années, mais c'est une condition, vous êtes d'accord avec ce que dit le juge, c'est une condition de se regarder en face pour pouvoir avancer.
Oui, bien sûr. Il faut, bien sûr, en dehors de... en dehors de l'accompagnement, en dehors de proposer des activités, de multiplier les aménagements de peine, de donner un sens à la peine, bien sûr que moi, si j'ai pu faire ce travail, j'ai pu trouver l'issue de secours de mon propre labyrinthe, grâce à l'écriture, c'est parce qu'un jour, je me suis dit, l'enfer, c'est pas les autres, c'est moi. C'est que j'étais capable d'assumer mes responsabilités, de faire un peu le point, de me dire, voilà, j'ai passé ma vie à courir après l'argent, et aujourd'hui, je donnerai tout l'or du monde pour sortir de cette cellule, mais c'était trop tard. Donc, quelque part, oui, cette partie-là, ce travail-là, c'est moi qui l'ai fait. Mais l'autre partie, heureusement que j'ai eu la chance de rencontrer, de faire des belles rencontres humaines, que ça soit ma prof de littérature, que ça soit les ateliers d'écriture et de poésie auxquels je participais.
Des personnes extérieures.
Mais bien sûr, des ponts entre le dehors et le dedans. Et c'est ce qui m'a sauvé aussi. En dehors des mots, c'est aussi ce qui m'a permis de m'élever et de devenir, de tendre vers le meilleur de ce que j'avais, et non pas de me pousser vers mes côtés les plus noirs, vers mes monstres, quelque part, comme la plupart des détenus qui, au fil du temps, s'aigrissent. Les familles ne sont plus là, les parents décèdent, puisqu'on parle de grosses peines. Et c'est, en poussant les hommes vers leurs côtés les plus noirs, ça laisse des traces indélébiles, et on le sait aujourd'hui.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras.
France Culture, Esprit de Justice, Antoine Garapon.
Esprit de Justice qui continue de réfléchir sur la sortie de prison en compagnie de Prune Missoff, de l'OIP, de Khaled Miloudi, qui est auteur d'un livre sur son expérience carcérale, et de Ludovic Fossé, magistrat, ancien juge d'application des peines, Ludovic Fossé, qui a choisi de nous faire entendre Le tourbillon de la vie par Jeanne Moreau, cette bande originale de Jules et Jim. Pourquoi ce choix?
Alors d'abord parce que j'aime beaucoup François Truffaut, mais je trouve que c'est un beau message d'optimisme et de rencontre, cette idée que donc les gens vont à un moment donné effectivement être retirés de la société, mis à part, mais que ça va être pour pouvoir repartir dans le tourbillon de la vie et reprendre une place ou une nouvelle place. Et ça renvoie aussi à l'idée, finalement, je trouve, à la fois le film et la chanson, d'une défraternité, et que finalement la réinsertion des détenus, la sortie de prison, c'est pas simplement l'affaire des professionnels, c'est pas simplement de tous, c'est aussi l'affaire de l'ensemble de la société, de cette place qu'avait accepté de redonner à la personne qui a été à un moment donné privée de la liberté. Et c'est de plus en plus compliqué, parce que on parlait d'informatique, des réseaux sociaux tout à l'heure, mais les gens qui ont été en prison, il suffit d'aller sur Internet pour en permanence savoir pourquoi ils y ont été, pourquoi ils sont là, et donc c'est très stigmatisant, et il y a de moins en moins cette notion d'oubli, et je pense qu'il faut la contrebalancer par une notion de fraternité et d'accueil et d'ouverture.
C'est votre avis aussi, Prune Missoff?
Je compléterais même en disant que, au-delà de ça, il y a une forte stigmatisation des personnes détenues, et ça, on le doit malheureusement beaucoup au discours politique et au traitement médiatique, où aujourd'hui, quand on parle des personnes détenues, on pense tout de suite que ce sont que des dangereux criminels.
Est-ce que c'est pas un peu facile d'accabler les politiques? Dieu sait s'ils ont leur part de responsabilité, mais c'est aussi la société qui se durcit, qui est de moins en moins fraternelle, Prune Missoff, non?
Alors, je me prononcerai pas de manière générale, oui, parce que j'estime que c'est pas mon office, mais en tout cas, pour ce qui concerne la prison, ce qu'on constate, c'est que tant que les personnes qui savent, en fait, qui ont à portée de main les informations, qui savent comment ça se passe à l'intérieur de la prison, qui savent qui est enfermé en réalité, tant que ces personnes continueront de dire à l'opinion publique qu'ils sont en danger et que la seule solution qu'on peut leur apporter, c'est la prison, que ce soit la seule peine qui vaille, je pense qu'ils ont là une part de responsabilité très importante.
C'est votre avis aussi, Khaled Miloudi ?
Oui, je pense que la société civile doit s'emparer des problématiques de la prison. Autant avant, on mettait un couvercle et puis ça les regardait pas. Et quand autour de moi, maintenant, dans les milieux où, que je côtoie, où j'évolue, quand je dis aux gens que, voilà, je leur parle un peu des conditions de détention, ils hallucinent. Quand je leur dis qu'un jour, ils seront tirés au sort sur une liste électorale et devront aussi, en tant que juré populaire, être amené à juger.
Décider la vie de quelqu'un, oui.
Voilà. Quand je leur parle des conditions de détention, ils sont surpris, ils tombent un peu des nues. Et quelque part, au travers de mon témoignage, c'est aussi très humblement de sensibiliser aussi.
Bah oui, mais c'est un message d'espoir que vous leur donnez, parce que c'est la trajectoire qui est très dure, qui a connu des peines très longues, et en même temps qui, grâce à l'écriture, grâce à vous aussi, s'en est sorti.
Oui, et surtout la finalité, c'est de pas enfermer l'homme dans son passé ou dans un dossier. Parce que toute ma détention, c'était on me parlait que de mon dossier. J'étais un numéro des couilles, on me parlait que de mon dossier. Donc voilà, être capable de se dire qu'un homme est capable de se transformer, surtout si on lui donne les moyens de tendre vers le meilleur.
C'est ça, finalement, Ludovic Fossé, ce qui doit rester une boussole pour tout le monde, y compris pour le juge. Le juge, il doit pondérer des intérêts divergents, opposés, comme la sécurité, mais aussi permettre aux hommes de ne pas être réduits, comme le disait Khaled Miloudi, à un dossier.
Mais je crois que tout le monde attend, quand un juge place quelqu'un en prison, je pense que chacun attend, y compris d'ailleurs les victimes, que ce temps de détention il soit utile et il serve à quelque chose, qu'il ne soit pas simplement, comme on dit très souvent aujourd'hui, de neutralisation. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus grand et plus fort que ça. Et qu'on ait la conviction que quand les gens rentrent en prison, d'abord ils y rentrent parce qu'il n'y a pas d'autre solution possible. C'est vraiment le dernier recours, nous dit la loi, mais je pense que ce n'est pas toujours vrai aujourd'hui. Et qu'ensuite, il va se passer des choses pendant ce temps de détention. Ce n'est pas simplement une voie de garage où les gens vont être incarcérés dans une cellule à attendre que le temps passe, souvent en faisant de mauvaises rencontres. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on souhaite. Oui. Puisqu'on a malheureusement aujourd'hui des gens qui rentrent en prison pour des infractions de gravité moyenne et qui après sortent... voire radicalisés ou en basculant dans le grand banditisme. On voit bien que c'est complètement contre-productif et ces gens-là, il aurait mieux fallu qu'ils ne rentrent jamais en prison.
Et c'est ça qu'il faudrait expliquer, Prune Missoff. C'est ça que vous expliquez, dire à longueur de numéro, hein, dans dehors. C'est quand même aussi en rentrant dans le concret de la vie carcérale de montrer un vrai visage à détention et peut-être de responsabiliser aussi les citoyens, tous les citoyens, sur le regard qu'ils portent sur la détention.
Oui, en fait, c'est avant tout de dire à ces citoyens que la prison fait partie de la société. Je crois que c'est là le cœur, en fait, de la solution, c'est d'arrêter de penser, mais tout pousse à croire ça, hein, ne serait-ce que le positionnement géographique des prisons, la difficulté d'y accéder, le fait qu'elles soient complètement invisibilisées aux yeux de la population. En réalité, la prison, elle fait partie de la société et les personnes détenues, elles font partie de la société. D'ailleurs, on dit souvent elles vont revenir dans la société, mais d'ailleurs c'est très fort parce que qu'est-ce qu'on dit ? En fait, on dit que pendant un temps elles sont complètement sorties, alors qu'ils restent membres de la société qui continue de fonctionner.
Oui. Mais alors, Khaled Miloudi, le compagnonnage, là, ce que disait Ludovic Fossé, c'est qu'il y a une socialisation négative possible en prison. Hein, c'est-à-dire que, et pour vous, ça a été très important dans votre parcours. Vous avez l'impression d'avoir trouvé une famille, finalement.
Bien sûr, ma première peine de prison pour une bagarre. Parce que quand j'ai écrit mon manuscrit, je me suis rendu compte que c'était un virage raté. Une bagarre. Donc,
quel âge vous aviez ?
J'avais 19 ans, je sortais de mon service militaire fraîchement exécuté. Mon casier du judiciaire vierge, les placements en famille d'accueil. Ouais, j'avais plus besoin d'une main tendue de la part de l'institution judiciaire qu'une mise en détention à Fleury-Mérogis, donc la prison à l'ancienne, hein, où pas de parloir, on était tous habillés pareil. Bon. Et ben, ça a été un basculement, puisque cherchant une famille, ben là, voilà, j'ai rencontré des anciens qui m'ont pris sur leurs ailes. Et effectivement, j'ai sombré dans le grand banditisme, alors que je suis rentré pour une bagarre et j'avais jamais connu la prison et mon casier était vierge.
Et alors, comment arrêter Comment arrêter, Ludovic Fossé, cet engrenage que vous décrivez? C'est quand même assez terrible, parce que, et on en a, je crois, tous conscience ici autour de la table, et ce serait bien que nos concitoyens en aient plus conscience, c'est que finalement, dans la prison, ça peut être, elle est nécessaire, elle est inévitable, mais en même temps, elle risque de tourner au pire.
Je pense éviter la promiscuité, c'est-à-dire faire en sorte qu'effectivement ne rentrent pas en prison plus de personnes qu'il n'y a de place, quoi. Enfin, c'est toute la question de... pose aujourd'hui le mécanisme de régulation carcérale,
oui.
qui est vraiment en débat. C'est parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la construction de nouveaux établissements pénitentiaires ne mettra pas un terme à la surpopulation pénale si on ne met pas en place des outils juridiques pour les limiter.
Quel type d'outils juridiques? C'est le numerus clausus, par exemple?
Oui, c'est un numerus clausus. Alors, ce que l'ANJA propose,
mais d'autres... Vous pouvez expliquer en deux mots pour nos auditeurs ce que c'est que le numerus clausus?
C'est l'idée que, comme d'ailleurs dans toutes les autres institutions, on met pas plus de personnes qu'il ne peut y en avoir. Donc voilà, à l'école il y a un certain nombre de places, à l'hôpital il y a un certain nombre de places, même dans les centres de rétention administrative il y a un certain nombre de places qu'on ne dépasse pas. Il y a que la prison où finalement la prison doit toujours accueillir, même lorsqu'elle est complètement saturée. Donc l'idée qui est proposée par un certain nombre de professionnels, c'est pas évidemment de limiter les entrées parce que ça serait trop compliqué. On a besoin de passer des gens en détention à certains moments dans des périodes de crise ou d'infractions graves et compliquées, mais de réguler par les sorties. Et en faisant sortir les gens qui paraissent le mieux à même de reprendre une place dans la société au moindre risque, de façon à ce que ceux qui sont en détention soient effectivement pris en charge dans les meilleures conditions possibles.
Le numerus clausus, c'est une solution pour vous à l'OIP?
Oui, alors on l'appelle pas numerus clausus parce qu'effectivement ça fait débat, parce qu'on a l'impression qu'on va stopper les entrées en détention. Oui. Et en réalité, ce mécanisme de régulation carcérale, il a vocation à se situer au moment des sorties. Donc c'est de favoriser des libérations anticipées. Alors il y a plusieurs mécanismes qui pourraient d'ailleurs se recroiser. Et c'est quelque chose qui a été fait pendant la période sanitaire où il y a eu une baisse de plus de 12 000 personnes détenues. Alors par à la fois des sorties anticipées et également par moins d'entrées, mais qui a montré que finalement, en repassant sous le seuil de surpopulation carcérale, on n'avait pas une société à feu et à sang. Juste ce qui nous semble très important, mais je pense que c'est partagé par tous les acteurs qui portent aujourd'hui ce mécanisme, c'est de dire que ce mécanisme, c'est une solution d'urgence qu'il faut mettre en place maintenant, parce qu'on ne peut plus tolérer une surpopulation qui ne cesse de s'aggraver, mais qu'évidemment, ça doit s'accompagner de réformes de fond qui va jouer sur les entrées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on surincarcère toujours plus. On a vraiment un nombre de personnes détenues qui explose mois après mois. Et ça, il faut absolument qu'on prenne une dynamique inverse.
Alors, je vous propose qu'on écoute l'un des poèmes de Khaled Miloudi sur une musique. Il nous expliquera ensuite quelle est cette musique.
Pardonne-moi, maman, j'ai écrit de la poésie pour les autres, le monde et pour moi. Et rien, pas un mot pour toi. Et pourtant, j'ai tant de mots en moi que je ne t'ai pas dit, que je ne t'ai pas écrit. Alors pourquoi attendre que tu sois parti pour te dire ce « maman, je t'aime » qui reste collé au fond de ma gorge et qui remonte plus je vieillis. Pardonne-moi, maman. Maintenant, là, au seuil de l'instant, je suis redevenu le petit garçon qui venait te réciter des chansons. Tu m'écoutais le dos tourné, occupé à racler nos casseroles dans l'évier, les yeux rivés sur mon cahier. Et lorsque tu te retournais pour me reprendre ou me féliciter, ta voix si douce me rassurait. Et mon visage si renfrogné, toujours s'illuminait. Pardonne-moi, maman, de n'avoir pu parer les coups. J'avais si peur, bien pire que du loup. Les os si frêles, les bras si petits, impuissants devant ton corps meurtri. Pardonne-moi, maman, d'avoir soigné mes écorchures en oubliant tes bleus à l'âme et de n'avoir su te préserver de mes ennuis, de mes soucis, que je peux compter sur cette photo. Tes cheveux gris. Pardonne-moi, maman. Pardonne-moi.
Merci beaucoup Khaled Miloudi pour ce poème très très poignant comme on l'a tous entendu. C'est sur une musique qui vous parle particulièrement.
Oui, c'est les premiers morceaux de musique que j'entendais que ma maman écoutait en cachette avec son petit poste radio et sa vieille cassette, puisque la musique était proscrite aussi à la maison. Donc voilà, c'est mes premiers souvenirs, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai de ma maman, ces moments où j'étais encore un enfant, et je crois que c'est les seuls souvenirs que j'ai en tant qu'enfant auprès de ma maman. Donc voilà, elle m'a bercé durant mon enfance, et elle est restée gravée en moi comme quelque chose de très fort. Ouais.
Voilà. Et c'est une chanson, Didier, qui s'appelle « Avava Inouva », qui veut dire « C'est en Kabyle ».
Oui.
Voilà. Mais alors, on a beaucoup parlé, Khaled Miloudi, on a beaucoup parlé des intervenants extérieurs qui viennent dans la prison. Aujourd'hui, vous êtes dans une position paradoxale parce que vous avez passé de nombreuses années en prison, mais vous y retournez pour faire des ateliers d'écriture avec les détenus.
Oui, la première fois qu'on m'a proposé, 9 mois après ma sortie, de rentrer à la prison de Réau, au CP de Réau, où j'étais détenu, dans le cadre de la justice restaurative, sur 6 ateliers. Chez les femmes en plus, je pensais ne pas pouvoir leur apporter quelque chose, et en fin de compte ça a déclenché à la moitié des femmes de l'envie d'écrire et de renouer des liens très forts avec leurs enfants. J'ai fait la prison de Corbas, le Salon de Provence aussi, j'ai peut-être d'autres prisons où je dois passer, mais oui.
C'est... Et là, le contact, j'imagine, il passe facilement avec les détenus.
Oui, la première question qu'on m'a posée après mon parcours, comment tu as fait pour venir ici ? Et je leur ai dit qu'effectivement, comme une forme de réparation pour moi, et puis tous ces ponts entre le dehors et le dedans, quelque part, j'avais aussi envie de créer le mien et d'apporter ma petite pierre très humblement.
Alors, les dedans, dehors, je reviens à l'OIP, à votre travail, Prune Missoff, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il nous reste peu de minutes, on a parlé du numerus clausus, on a parlé d'Internet, on a quand même déjà parlé d'un certain nombre de choses. Les urgences, faire respecter les droits fondamentaux, porter un autre regard sur les détenus.
Oui, alors les urgences, effectivement, c'est ce qu'on a peut-être déjà abordé, c'est-à-dire autoriser l'accès à Internet aujourd'hui en détention, mettre en place un mécanisme de régulation carcérale pour assurer qu'il n'y ait pas plus de personnes enfermées.
C'est une urgence parmi les urgences. Ouais.
Oui, parce que c'est aussi, si vous voulez, alors déjà c'est une urgence. Je veux dire, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les prisons, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et en plus, plus généralement, ce n'est plus possible de banaliser et d'entendre ces chiffres qui tombent chaque mois, qui s'aggravent, et on nous parle de pourcentage et on nous dit nouveau record. Et en fait, derrière, c'est la vie de milliers et milliers, de dizaines de milliers de personnes qui est impactée. Alors, ce qu'il faudrait faire de manière beaucoup plus globale, vous parliez tout à l'heure des citoyens, c'est qu'on prenne le temps en fait de réfléchir en parallèle collectivement à ce que doit être le sens de la peine et à la place que la prison doit avoir dans notre système pénal qui aujourd'hui entre ce que dit le texte et ce qui est dans les faits n'est pas du tout raccord.
Pour vous, Ludovic Fossé, de votre point de vue, vous avez été juge d'application des peines pendant de nombreuses années. Vous êtes aujourd'hui président de chambre qui juge en appel les mesures concernant l'administration des peines. Qu'est-ce qui serait urgent ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Ce qui est urgent, c'est faire baisser la pression, effectivement, voilà. C'est réussir à...
Pour pouvoir permettre de faire des choses en prison.
Parce que c'est le préalable à tout le reste. En fait. Tant qu'on est dans cette situation, tout le système est complètement en train de se paralyser, de se bloquer, mais à tout point de vue. C'est les médecins qui ne peuvent plus travailler, c'est les extractions qui ne se font plus et qui mettent en tension les juridictions. Enfin, toutes ces difficultés-là, et c'est évidemment des gens qui vont sortir de détention sans aucun accompagnement et donc qui vont revenir très vite. Et on voit bien comment le système peut complètement s'emballer. Donc il y a vraiment cette priorité-là à réfléchir, à comment on sort de cette situation actuelle qui est le fruit de législation sur une bonne vingtaine d'années. Hein. Enfin, tout ça n'est pas venu du jour au lendemain, c'est des textes de plus en plus répressifs, avec encore la prison de plus en plus fort. Même si la situation n'est pas simple, puisque dans 80% des cas, les juridictions prononcent d'autres peines que des peines d'emprisonnement ferme. Donc on voit bien que les marges de manœuvre ne sont pas si grandes que ça, mais il faut y réfléchir collectivement. Pour réussir à se mettre autour de la table.
Vous convergez avec Prune Missoff sur cette idée qu'il faut que ça devienne un objet de débat citoyen, comme on parle du climat, comme on parle de conférences citoyennes. Ouais,
ouais. Et après, il y a un enjeu peut-être à plus long terme sur la question de la réforme des peines encourues, puisqu'en fait, notamment le conseil, la lecture de La Fabrique des peines, oui. Philippe, qui parle effectivement de cette différence énorme entre les peines prononcées et les peines encourues, qui donne le sentiment d'un populisme pénal très très fort, alors qu'en fait, c'est les peines encourues qui ne sont pas du tout adaptées à nos échelles de valeur.
Pour vous, Khaled Miloudi, une prévention, la prévention, augmenter la prévention auprès des jeunes?
Oui, la prévention, et bien sûr, en ce qui concerne la prison, c'est multiplier les aménagements de peine. On sait que plus le temps de détention est réduit, plus on a de facilité à se réinsérer. Et pour la prison, une fois que la sanction est tombée, le sens de la peine, j'insiste beaucoup, le sens de la peine, très très important. Qu'est-ce que le détenu fait pendant le temps, pendant X années? Et bien sûr, après, axer sur la réinsertion. Et non pas attendre le dernier jour pour parler de réinsertion. Donc voilà.
Mais une sensibilisation des jeunes aussi, que vous faites, là aussi, des ateliers d'écriture avant la détention.
Et bien sûr, et quand ils sont placés par la PJJ, c'est que voilà, il y a eu un délit ou un crime qui a été commis, mais ils étaient trop jeunes pour les incarcérer. Donc je pense que là, c'est important d'intervenir. Avec les jeunes de l'aide sociale à l'enfance aussi. Je crois que c'est très très important. Puis dans les lycées, les collèges aussi, puisque voilà, on sait que des fois ils ont un pied dans la cité, un pied à l'école, et c'est très important d'intervenir.
Il y a un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est dommage, et je voudrais qu'on en dise un mot, Prune Missov, parce que c'est un élément clé, ce sont les associations. Les associations qui, en fait, accueillent, font la transition entre la prison et la société. Et vous insistez beaucoup sur ce travail, mais qui, là aussi, demande un soutien, demande une véritable politique publique, paradoxalement, pour ces associations.
Oui, alors ces associations, elles interviennent déjà pendant la détention, et puis effectivement, elles permettent de faciliter, on va dire, la transition avec la sortie,
d'accompagner
à la sortie.
C'est souvent elles qui accueillent, en fait, souvent.
Oui, mais même elles sont, en fait, beaucoup trop faibles en termes de nombre, c'est-à-dire que, heureusement qu'elles sont là, hein, et nombre d'entre elles font un travail formidable, mais aujourd'hui, je pense que la situation classique est davantage celle d'une personne détenue qui sort de prison sans même rencontrer la route d'une association que celles qui vont pouvoir être accompagnées par des associations. Et on voit de manière très globale des financements auprès des associations, des financements publics qui continuent de baisser. Et effectivement, c'est une situation qui est très compliquée, alors que, pour une fois, on est sur... sur une dynamique d'accompagnement et pas uniquement de contrôle.
Il y a une question que je voulais vous poser, Ludovic Fossé, parce que je l'ai dit dans le chapeau, et puis on l'entend parfois, c'est le juge d'application des peines, parfois il est sous la pression de l'opinion publique, parce qu'il y a une opinion qui demande, quand il arrive une catastrophe lors d'une sortie de prison ou pour une sortie temporaire, c'est un vrai problème pour le juge d'application des peines.
Il y a toujours un enjeu effectivement très fort à cet échec d'aménagement de peine ou l'échec de permission de sortir qui se termine dramatiquement. C'est des choses qu'il faut aussi regarder en face, puisque ça peut arriver. Finalement, essayer de construire quelque chose. Après, c'est en responsabilité. Plus qu'au-delà de l'opinion publique, c'est sa propre responsabilité et sa propre conscience. Moi, j'ai la chance de jamais avoir été confronté, mais j'ai des collègues qui l'ont été, et c'est extrêmement difficile. Mais en même temps, on sait que c'est le seul chemin possible pour permettre au plus grand nombre d'évoluer favorablement, de reconstruire, etc. Enfin, la dimension collective est bien plus forte que, effectivement, cette difficulté auxquelles on peut être confronté.
Un mot pour une mission.
Oui, je pense juste la manière dont vous formulez la question, en fait, montre là aussi que, finalement, s'il y a une réaction forte de l'opinion publique qui est négative quand il se passe quelque chose parce qu'il y a eu aménagement de peine, c'est aussi parce qu'on oublie que, de toute manière, cette personne va sortir de prison. Donc, en autorisant un aménagement de peine, le juge de l'application des peines, finalement, il ne fait que favoriser une transition donner le maximum de moyens à ce que tout se passe le mieux possible.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour cette discussion riche. Esprit de justice, c'était fini pour ce soir. À la technique, il y avait Alex Dang, à la réalisation Jean-Christophe Francis, à la préparation Sandrine Chapon, une émission de Fanny Garapon.